Chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les humains. Voilà la nouvelle mission proposée par votre serviteur Dominique Desmichel avec ses complices Gabriel Seban et Olivier Lestis. Elle part de quoi ? D'une interrogation du quotidien. Par exemple, pourquoi aimons-nous grimper aux arbres ? Pourquoi dit-on des gros mots, surtout en voiture ? Peut-on tirer des leçons du passé ? Pourquoi parlons-nous avec les mains ? Faut-il croire l'État ? Et surtout, surtout, la question la plus importante, patati et patata, les soirs de pleine lune. Alors on va essayer d'avoir un petit peu le même plan avec une thèse, une antithèse, une synthèse, sans oublier la foutaise. Avec parfois un invité, fut-il le quidam croisé dans la rue, mais toujours avec une interrogation, c'est quoi la question ? Question sérieuse ou curieuse ? Question futile ou utile ? Question existentielle ou démentielle ? C'est à vous de choisir selon votre écoute. Alors, redevenons pendant un petit moment un peu sérieux, et là je convoque Hippocrate, tout le monde connaît bien, surtout moi qui suis médecin bien évidemment, qui disait dans son premier aphorisme, écoutez bien, chers auditeurs, c'est un peu compliqué, mais je vais reprendre après. La vie est courte, l'art est long, l'instinct opportun est aigu, l'expérience est incertaine, la crise est difficile. Alors, ça veut dire quoi ? La vie est courte, mais elle nous engage. L'art est long, mais il ouvre le monde. L'instant opportun, le moment juste en fait, il est aigu, mais il nous faut le saisir. Kairos, disent les Grecs. Pour avoir l'air un petit peu savant pendant une petite seconde, l'expérience est incertaine, mais elle forge nos progrès. La crise est là, mais probablement c'est un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité, pensez tous aux fake news, qui est toujours d'ailleurs plus rationnelle qu'absolue. Alors voilà notre cadre. Deviens ce que tu es en apprenant, disait Pindare, 518 avant Jésus-Christ. Camus ajoutait, mal nommer les choses, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. Gabriel, Olivier, je vous convoque en tant que révolté. Je compte sur vous. Alors, nous nous proposons de nous saisir d'une simple question au départ, anodine, parfois, mais souvent tout aussi un peu existentiel, démentiel, pour prendre le temps de réfléchir, de poser les enjeux, de parler pour ouvrir l'intelligence avec philosophie et humour, dans le sérieux ou dans le divertissement. Mais aussi, peut-être, on est peut-être ambitieux, mais tant pis, soyons-le, au moins pour commencer aujourd'hui, pour se forger un art de vivre par nos temps difficiles, pour naître une seconde fois. Et puis, pour lutter à visage découvert contre l'instinct de mort, trop souvent à l'œuvre dans notre histoire, pour celui qui hésite à chercher quoi ? La pépite d'or dans l'océan du tragique. Bonne écoute à vous tous, chers auditeurs. Gabriel et Olivier, bonjour.
Bonjour, bonjour Dominique.
Alors venons-en aujourd'hui à la question du jour qui sera « Que peuvent les mots ?» Alors évidemment, on commence par quelque chose qui n'est pas le plus simple. Hein. Pourquoi grimper aux arbres ? Pourquoi on aime grimper aux arbres ? C'est peut-être un petit peu plus facile à traiter ou moins difficile à traiter. Peut-être que ce n'est pas si simple quand même de savoir pourquoi on aime bien grimper aux arbres ou faire des cabanes au fond du jardin. On reprend un tout petit peu sur les mots parce que quoi ? Parce qu'il est peut-être un peu intéressant de se poser la question. La radio, elle porte sur les mots et elle sait se passer des images. Elle est donc une invitation à cet imaginaire qui sert de bouillon de culture à notre quotidien. Alors je reprends la question. Que peuvent, mais on va essayer de réfléchir de quel pouvoir s'agit-il? Un pouvoir concret? Une capacité à produire des effets? Une invitation à agir, à faire, à transformer, à transmettre quelque chose comme une puissance, une force? Peut-être. Que peuvent les mots? Mais les mots, c'est quoi? On sait que ce sont avant tout des signes arbitraires, conventionnels, écrits ou parlés. Mais ils sont quand même normalement porteurs d'un contenu. Alors, reprenons sur les mots. Parole, 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 tout le monde connaît cette chanson de Dalida, qui est en fait une réponse à Alain Delon, qui ne dit en fait que des mots pour la séduire, avec en quelque sorte une sorte, avec ces mots, d'arme dérisoire et futile, dont il y a tout lieu de se méfier. Deuxième invitation à votre imaginaire, chers auditeurs, Cyrano, dans le texte d'Edmond Rostand. Lui, il compense la laideur de son nez par une éloquence puissante, mais aussi une tendresse touchante. Ces mots, qui disent au fond ses propres sentiments pour Roxane, en même temps que la beauté de Christian, donnent à ce discours une immense force émotionnelle. Je vous rappelle la question, chers auditeurs, que peuvent les mots ? Cyrano puise dans la créativité des mots une façon de contenir son amour contrarié. Ce sont toujours par les mots qu'il avouera, rappelez-vous le texte ou rappelez-vous le film, qu'il avouera avant de mourir le secret de son drame à celle qu'il aime encore plus que son éloquence. Et on voit bien là que les mots portent l'amour, ils portent l'émotion, les larmes, le sourire, la paix, la joie. À l'autre bout du registre, il y a le Rwanda, c'est un pays que je connais, que j'ai visité il y a longtemps quand je faisais mon service militaire. Et en 1994, vous le savez, a eu lieu le dernier génocide de notre histoire, celui des Tutsis par les Hutus. Et Jean Hatzfeld a montré dans un livre, Trilogie rwandaise, paru autour de la période 2000, je crois, ou 2000, je ne sais plus, que l'usage de mots avait largement favorisé les premiers massacres. Les Tutsis étaient désignés comme des cafards. Les mots sont aussi des armes. On n'est plus ici dans la poésie de Cyrano. Ici, on peut dire salope, pétasse, pédé, sale juif, nègre. Là, on voit que les mots peuvent être terribles. Autre registre, les mots, ils ouvrent aussi aux rêves, voyages, azur, firmament, voie lactée, infini, comme mille autres. Ou au sentiment, comme dans le poème « Une déclaration d'amour », des textes engrossés d'émotions, de larmes ou parfois d'un simple sourire. Et puis, autre registre, au cœur d'un tribunal, la parole du juge ou des magistrats est dotée d'un pouvoir important. On interroge l'accusé, on lui rappelle la loi, on dit un jugement. Mais ce pouvoir, qui est là, est le pouvoir aussi des mots. Je vous rappelle la question, que peuvent les mots ? Ce pouvoir, d'où vient-il ? De la loi ? De l'État ? D'une culture ? D'une domination de certains ? Une puissance qui existerait peut-être même avec la puissance des mots ? Et puis d'autres mots posent un acte. Le week-end dernier, j'étais à un mariage et le maire a dit « Je vous déclare mari et femme ». Voilà, les mots ici posent quelque chose de puissant. Comme on peut dire aussi « Le voisin est mort » ou « Je déclare » les Jeux Olympiques ouverts. Et juste les mots ouvrent un espace. Dans son discours de linguistique générale, Saussure donne une définition du mot en le qualifiant de signe qui nourrit un discours. Il dessine ou il évoque grâce à deux contenus. Là, les auditeurs, vous allez voir, c'est un peu compliqué, mais peut-être vous allez pouvoir vous y faire. Un signifié, le sens porté par le mot lui-même, et un signifiant, qui sont en fait l'ensemble des lettres du mot en quelque sorte. Le mot est donc une sorte de contenu tout à fait arbitraire qui permet avant tout de communiquer un contenu. Je continue encore un peu. Dans son livre « Le rire » paru en 1900, Bergson dit que le mot n'est qu'une étiquette utile pour échanger. Mais dans l'art, L'art des mots, la rhétorique, la poésie, le roman, l'essai, Olivier, j'espère que tu nous en parleras tout à l'heure, les mots deviennent langage et ils disent tout autre chose que la chose même, bien loin de leur utilité première. Le philosophe juif allemand Victor Klemperer a analysé combien la novlangue nazie avait imposé la barbarie. On rejoint l'histoire des Tutsis. Il a témoigné de l'horreur des lois anti-juives jusqu'à la perte de sens. Et cette écriture de détresse incarne, de façon poignante, le courage de la vérité d'une langue juste. Je vous rappelle le titre de l'émission « Que peuvent les mots ?». Bourdieu, dans « Ce que parler veut dire », paru en 1982, développe l'idée que l'usage des mots est avant tout un enjeu de domination sociale. Celui qui sait parler détient le pouvoir. Ça nous rappelle à tous quelque chose. À moins que ce ne soit la position sociale qui donne aux mots une puissance a priori. Il est donc étrange de parler de seulement de signes immatériels si on se questionne sur le pouvoir des mots. Pourtant, nous le savons bien, une insulte peut blesser. Une phrase peut apaiser ou réconforter. Un pardon dans les mots réconcilier, un aveu dans les mots éclairer, un vers dans ces mots faire rêver, une description emmener l'autre au bout du monde et une évocation porter toute une histoire. Les mots ne sont donc pas si impuissants que cela. Ils médiatisent la vie, ils autorisent les échanges, ils portent l'intersubjectivité et ils désignent toujours autre chose, le véritable objet d'un discours. Et puis, le mot est-il séparable de celui qui le prononce ? De plus, le mot est-il compréhensible sans l'émotion qui accompagne son énoncé ? Quand on parle, on dit toujours deux choses. On dit un texte et on dit une musique. On dit un sens et une émotion. Le même mot n'a pas le même sens, pas la même puissance, pas le même pouvoir selon celui qui l'énonce, selon le texte, le contexte où il est émis. L'humour, par exemple. Et tous les deux, j'espère que nous n'allons pas l'oublier. L'humour, lui, il triche avec la matérialité première des mots. Et puis, chacun de nous, on ne met pas le même contenu dans le mot. Cela ne tient-il pas alors à son pouvoir propre ou à ce que j'ai envie de lui faire dire ? Son pouvoir n'est-il là qu'en raison de relations sociales, politiques, économiques qui déterminent des rapports de force entre celui qui parle et celui qui reçoit le mot ? Nous savons que la violence et le pouvoir abusif peuvent être portés par les mots manipulés par le locuteur. Et ce n'est pas l'histoire contemporaine avec ce qui se passe dans l'Europe de l'Est qui nous dira le contraire. La désinformation par les mots peut être terrible. Alors, je vous propose, cher Gabriel et cher Olivier, d'aborder notre sujet à partir de trois questions. Première question, les mots. Mettent-ils la pensée en mouvement ? Deuxième question, les mots reflètent-ils un rapport de force ? Troisième question, les mots ont un pouvoir créateur propre, oui ou non ? Vous allez tous me répondre vivement qu'on passe à la question « Pourquoi a-t-on envie de grimper dans les arbres ?» C'est quand même plus simple. Eh bien quand même, aujourd'hui, on commence par quelque chose de compliqué. Alors je reprends ma première question. Vous êtes prêts ? Vous avez l'obligation de dire des choses extrêmement, extrêmement puissantes et en même temps drôles. Les mots mettent-ils la pensée en mouvement ? À vous.
Radio Grand Ciel.
Bon, ben, moi, je vais laisser la parole d'abord à la littérature, parce qu'en fait, le mouvement de la littérature me semble quelque chose d'important.
Bon, Gabriel commence par dégager en touche. C'est histoire de prendre un tout petit peu de temps pour réfléchir. Allez, Olivier, c'est toi qui dis.
Oui, je vais reprendre juste une ou deux choses que tu as dites dans ton introduction parfaitement claire, qui était que, déjà, nous sommes à la radio et que si on arrive à faire quelque chose, ça ne sera qu'avec des mots, puisque... on n'a pas les outils habituels de communication qui accompagnent les mots, hein, les gestes, les expressions, le contexte, voilà. Donc nous n'avons que les mots. Pour essayer de faire entendre quelque chose, les mots vont être notre seul moteur. en quelque sorte. Et tout de suite, si on dit moteur, ça me fait penser à la question du désir, parce que évidemment, le désir. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question de ta première question, à ta question initiale, mais en tout cas, je ne vois pas comment le désir pourrait fonctionner dans le monde humain sans être mis en mots. C'est-à-dire que sinon, on ne parlerait pas de désir, mais on parlerait de pulsion, par exemple, de pulsion pour se nourrir, de pulsion sexuelle, de pulsion de vie, etc., etc. Enfin voilà, des choses comme ça qui ne sont pas du tout élaborées. Mais quand on désire toujours quelque chose qu'on a élaboré. Et pour élaborer quelque chose, nous n'avons pratiquement que les mots. Même si nous nous taisons, nous pensons avec des mots. Je pense que là, je rejoins ta question, en quelque sorte. Et je dirais que, à propos de mots donc, et de moteurs, il y a quand même un grand philosophe qui s'appelait Descartes, qui a dit qu'il n'a pas parlé des mots spécialement, mais de l'étape d'après, ta question, c'est-à-dire la pensée. Il a dit « je pense, donc je suis ». À propos de moteur, ce qui est très intéressant, c'est qu'un autre grand philosophe, c'est mon fils qui me le signalait il n'y a pas très longtemps, a repris la phrase de Descartes pour la transformer de la manière suivante. « Je pense donc, tu suis.
Oui, » tu ne suis pas du verbe être, bien évidemment. Hein.
Ben non.
Mais tu as plutôt intérêt à suivre, quoi. Hein.
C'est ça.
Ouais. Alors moi, je me poserai au départ, en tout cas, un peu... sur un autre plan, sur le plan fonctionnel de la transmission, c'est ce que tu nous suggérais, Olivier, que je différencie du mode ou du stade opératoire que nous avons dans la vie quotidienne. Parce que moi, quand je prends une décision, quand je décide, par exemple, de changer d'itinéraire, de prendre une casserole, de taper violemment sur la table pour manifester mon sentiment à l'égard de tel ou tel moustique qui viendrait me piquer, je n'ai pas l'impression d'utiliser des mots. J'ai l'impression plutôt que ma pensée... s'exprime en moi, dans mon intériorité, sans passer par les mots. Bien sûr, j'entends une musique intérieure qui me parle, et si elle me parle, elle me parle forcément avec des mots. Mais pour autant, est-ce que ce sont les mots qui dictent ma compréhension, ou ces mots-là, je les connais tellement bien que je n'ai plus besoin de passer par ma compréhension, que je sais tout simplement... en me mettant sous leurs influences, à quoi, finalement, ils me mènent. Voilà. Donc, en fait, moi, je différencierais quand même bien le fonctionnel de l'opératoire classique. Mais, ceci étant, je peux m'arrêter de penser à certains moments et me laisser bercer par des mots.
Alors, tu as intérêt quand même pas à arrêter de penser là pendant l'heure qui arrive ici. Toi, tu as l'impression quand même que quand tu prends ta casserole et que tu écrases ton moustique, tu peux arrêter de penser.
Oui.
Olivier ?
Ça m'étonne.
Bah, c'est-à-dire que je n'arrête pas de penser puisqu'il faut que j'agisse dans le geste qui consiste à « tu prends la casserole », mais je ne me dis pas « tu prends la casserole », je la prends.
Oui.
Ou alors ça va très vite et cinétiquement, je n'ai pas la capacité de discerner l'émission du message avec l'effet du message. Paf, je fais. Mais je suis peut-être trop impulsif à ces moments-là. Je suis peut-être non discernant de l'esprit philosophique qui devrait m'animer envers cette malheureuse bestiole qui ne fait que vivre, finalement.
Alors, est-ce qu'un enfant, avant qu'il acquiert le langage, ou en particulier avant qu'il ait accès à quelque chose d'un peu symbolique, alors, pour dire les choses clairement, une façon claire de repérer chez l'enfant cet accès à la dimension symbolique, qui en général est au moins acquise, on voit ça dans l'examen du vague quatrième mois, par exemple, c'est est-ce qu'il est capable de faire semblant ? Hein, est-ce que l'enfant peut faire semblant ? Normalement, à 24 mois, on est capable de faire semblant. Est-ce que l'enfant, avant, il est capable, est-ce qu'il peut taper avec une casserole alors qu'il n'a pas de mots ? Pas physiquement ?
Ah, je crois que oui.
Tu crois que oui ?
J'ai un petit neveu qui prend un malin plaisir à regarder tomber un objet du haut de sa chaise et à reproduire le même effet dans son environnement, puisque quand l'objet est un verre, forcément il casse. Donc c'est plutôt la répétitivité. Je touche, quand je ne connais pas le feu, je vais près d'une chaudière. Je touche et je me brûle. Mmh. Et je ne me dis pas, je suis en train de toucher. Je touche. C'est-à-dire qu'en fait, l'impression corporelle passe avant le mot, me semble-t-il,
à ce stade. Oui, mais là, ça parle du mouvement du corps, du mouvement de sauvegarde, des réflexes, des choses comme ça. Ça, ce n'est pas de la pensée. Ça, ce n'est pas tout à fait de la pensée, je ne crois pas. Donc, effectivement, je pense que tu as tout à fait raison. Du côté d'un réflexe ou du côté d'un évitement, du côté de chasser une petite bête, par exemple. Voilà, je ne pense pas que ce soit des choses qui relèvent de la pensée. Mais je vais te donner un autre exemple, parce que c'est toi qui m'y as fait penser. C'est à propos d'un de mes fils, toujours le même que celui de Desproges tout à l'heure, qui citait Desproges en disant « je pense, donc tu suis ». Il avait 7, 8, 9 mois, par là, autour de 8 mois. Et il a prononcé son premier mot à ce moment-là. Son premier mot, c'était « mbé ». Je m'en souviens parfaitement, « mbé ».
Qui est parfaitement compréhensible.
Oui, parce que c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. En fait, il prenait un objet et il le faisait tomber. Donc le « mbé », ce n'était pas « tomber » comme aujourd'hui, on peut l'utiliser tous les trois, mais c'était quelque chose qui était de l'ordre du signifiant, tout d'un coup. Parce que justement, quand il faisait tomber un objet, cet objet lui échappait, il ne le voyait plus. Donc ça pouvait vouloir dire cet objet a disparu, etc. Et c'était pour lui extrêmement jouissif de pouvoir dire le mot qui rappelait l'objet qui avait disparu. Donc déjà, dans ce mouvement-là, à mon avis, d'abandon d'un objet, ou faire tomber un objet, et dans le fait qu'il prononçait « mbé », il était déjà du côté du mot, il était déjà du côté de la pensée, parce qu'il pouvait concevoir l'objet en son absence.
Alors là, je valide totalement le principe. Hein. Effectivement, quand il dit ce son qui rappelle le verbe qui convient...
En fait, il prononçait ce son parce qu'il m'avait entendu ou entendu sa mère dire « tomber ». C'est tomber à chaque fois qu'il lâchait quelque chose. Mais, donc il avait acquis ce mot-là pour lui substituer.
Oui, mais là, on se place sur la première fois où il le fait tomber. Est-ce que, sans le mot « tomber », est-ce qu'il pense en mot personnel ? C'est là. Après, effectivement, après, c'est tout le principe, je dirais, de réflexion sur ce que lui produit autour de lui son action, le principe éducatif lui-même qui vient relayer le processus effectivement de socialisation, on va l'appeler comme ça.
Eh bien les cocos, on n'est pas rendu parce que là, si je t'écoute bien Gabriel, tu es en train d'explorer le champ qui serait avant le langage. Alors moi, je vous posais la question, que peuvent les mots, et toi tu me réponds, oui mais attends, faut peut-être voir tout ce qu'il y a avant l'apparition du langage. C'est ça que tu me dis au fond, c'est-à-dire, il y aurait tout un espace qui serait un espace de l'agir, qui serait un espace du ressenti, qui serait un espace avec plein de choses, qui pourrait se passer des mots, c'est ça, au fond. Comme si, au fond, toi, ton fils, Olivier, il était à ce moment charnière où il va associer un geste et un mot. À presque comme s'il était dans un processus de création des mots. Hein. Ce à quoi tu nous invites finalement dans ta question, Gabriel, c'est presque avant, pas que peuvent les mots, mais d'où viennent les mots presque.
C'est ça.
Oui, mais je crois que d'où viennent les mots, ils ne viennent absolument de nulle part ou alors depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire que l'exemple que je donnais était celui de la pensée avec le mot. Mais je pense que les mots nous pensent. bien avant que nous ne pensions avec les mots. Et d'emblée, et même avant même notre naissance, et peut-être même avant même notre conception, les mots nous pensent déjà. Au travers du discours, de l'histoire que les parents se racontent, du désir qui précède aussi et qui s'exprime en mots aussi, je pense que dès lors, la conception peut être accompagnée de mots aussi, du reste. Et ensuite, lorsque le fœtus, et l'embryon, le fœtus, etc., grandit, le bébé, à l'intérieur encore du sein maternel, il est bercé de mots, il est raconté avec des mots, on lui parle. Et je pense que c'est absolument impossible de concevoir un être humain en dehors des mots qui le précède, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait une acquisition spécialement de mots à, ou une création spécialement de mots à avoir. Je pense qu'il y a la jouissance, dans l'exemple que je donnais, de tout d'un coup pouvoir se saisir d'un mot pour remplacer la chose, c'est-à-dire d'entrer dans l'univers du symbole et du symbolique. Donc voilà. Mais un enfant est déjà dans les mots, a déjà une histoire avant d'exister encore. Et quand on dit histoire, l'histoire ne se raconte qu'avec des mots.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Alors, chers amis, vous avez bien compris que là, nous étions dans l'espace du Paléolithica. On n'est pas encore arrivé au Néolithique. Et quant à la période contemporaine, n'en parlons pas, le Moyen-Âge, je sens que ça va être un tout petit peu rude. Alors, si on revient, parce que je vous ai proposé quand même différents champs de déploiement, des discours, des mots, que ce soit les mots tendres ou que ce soit les mots manipulés, que ce soit les mots qui ouvrent un récit, créent l'identité, etc. Alors vous, qu'est-ce que vous avez envie de reprendre là-dedans à partir de vos expériences ?
Ah ben, je vais rester un petit moment au Paléolithique encore pour reprendre justement ça. C'est-à-dire que, en effet, d'emblée, nous sommes tissés avec les mots des autres. Tout petit, avant la naissance, je le disais même. Enfin,
alors ça, c'est Gabriel qui vient de recevoir un SMS. Il a reçu des mots, il est en train de regarder dessus. Et c'est Emmanuel qui t'appelle. Non, bah, on prendra ça tout à l'heure. Excuse-moi, je t'ai coupé, Olivier.
Je ne sais plus ce que je disais. Oui, qu'on était tissé de mots bien avant de naître encore.
Ouais.
Simplement, on était fabriqué avec des mots. Et que les mots nous sont complètement consubstantiels. Je ne pense absolument pas qu'on puisse s'extraire d'un monde de mots. Donc, pour parler du pouvoir des mots, je pense que les mots déjà commencent par nous faire exister. Il y a des textes un peu anciens qui commencent, c'est pas très loin du commencement, qui racontent qu'au début était le verbe. Et en effet, il n'y a pas de monde humain sans verbe. Alors, verbe étant à prendre au sens, effectivement, du langage. Quoi.
Du logos.
Oui, j'affirme effectivement cette réflexion aussi de mon côté, hein, en disant qu'elle nous fait toucher de la langue, si on peut dire, le principe du mystère qu'il y a entre l'inanimé et le vivant via l'agir. Donc, si le mot, effectivement, comme c'est une idée que j'aime bien d'ailleurs, nous sommes fabriqués par les mots avant de naître. C'est une belle idée. Du coup, on n'est repoussé non plus au paléolithique, mais bien avant. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions, à un moment donné, sortir du néant par une conscience particulière? Et cette conscience, si elle s'est exprimée sans antériorité, par quel moyen? Est-ce que ce serait encore des mots?
Ça a mis quand même 13,8 milliards d'années, hein, on a pris son temps, hein, pour ça. Mais en effet, je trouve que c'est très intéressant ce que vous racontez aujourd'hui, parce que finalement, vous recentrez là, tous les deux, sur l'origine. Hein. Moi, je voulais faire juste une émission sur les mots, là. Je sens qu'on est parti pour une dizaine d'années, là, hein, à peu près, non?
Non, mais en ce qui concerne les mots, c'était une vraie aspiration, je dirais, qui nous tient pendant toute la vie. C'est d'où on vient, pourquoi. C'est le pourquoi des choses qui fait avancer la science, mais qui l'a fait avancer que jusqu'à un certain point. Moi, je crois aussi que derrière les mots, il y a l'intention des mots. Et cette intention... Pour un même mot, elle peut se différencier. Un même mot peut traduire, comme tu le disais, dans un contexte différent, dans une attitude corporelle différente, dans une, je dirais, un signifié différent, des choses qui sont à l'opposé. J'avais été à un moment donné auprès de jeunes qui étaient incarcérés. Et je leur ai fait une petite suggestion. Je leur ai dit, ne m'en voulez pas, mais je vais vous parler drôlement. Et je leur ai dit ceci, et je vais vous le faire sans vous le commenter. Mais qu'est-ce que tu fous ici ? J'ai senti une tension réelle qui se mettait en place en face. Et tout de suite après, j'ai dit, non, ce que je voulais dire, c'est, tu as sans doute fait des choses qui t'ont amené à être incarcéré. Et ça, simplement, dans la même réalité d'intention, se traduisait par des postures d'agressivité et d'intentionnalité sur l'autre différente. Ce qui fait que la deuxième formulation m'a permis de rentrer plus naturellement en contact avec la personne qui était en face de moi. Alors que si j'avais persisté dans la première formulation, avec les mêmes mots, avec la même intention, plutôt que les mêmes mots, avec la même intention, je pense que... je ne serais pas resté longtemps intact en face à face.
Mais est-ce que du coup, là, c'est comme si, dans ta première phrase, qui était en quelque sorte un peu agressive, même si bien évidemment, elle était comme une sorte d'artifice, hein, bien évidemment, est-ce que tu avais l'impression, alors que ton langage était là, dans l'émotion qu'il portait, donc j'allais dire dans l'émotion agressive qu'elle portait, même si ce n'était pas ton intention, s'il y avait quelque chose de près de pédagogique, est-ce que c'était dans une forme de proximité avec l'état de l'autre?
Oui.
D'accord.
C'était de montrer effectivement que la relation ne devait pas en rester qu'à des mots, mais qu'à une intention trouvée et validée chez l'autre.
Olivier?
Oui, ça me fait penser à quelque chose, d'assez connu, qui est qu'on appelle la communication. Et c'est toujours assez amusant, je trouve, la communication, parce qu'au fond, les mots qui sont à notre disposition, la manière dont on veut les utiliser, achoppent toujours sur la possibilité que les autres en face les comprennent pas exactement comme on les a dit. C'est-à-dire qu'il y a une faille toujours quand on parle. Il y a une faille, une possibilité en tout cas de méprise. Et le plus amusant, c'est qu'en face, on va probablement comprendre quelque chose et répondre. Et le processus va être le même dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce qu'on va me donner en réponse à ce que j'ai dit, je vais le comprendre, mais probablement en partie de travers, etc. etc. C'est-à-dire que plus on parle, moins on se comprend, potentiellement. C'est ça un peu ce à quoi ton histoire me fait penser, Gabriel. C'est-à-dire que, au fond, peut-être que dans ta première phrase, il y avait quelque chose d'assez facile à saisir, qui était justement, plus que le contenu, le ton. Oui. Et qu'il n'est pas certain que, justement, on ait vraiment compris ton intention, qui était probablement pas d'agresser, mais de provoquer.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais inversement, et là, je vais prendre ma tenue de caméléon pour dire ce que j'ai à dire là.
T'as la cam ?
Ouais, j'avais une question, en fait.
Oui.
j'avais une question là-dessus, parce que, au fond, dans cette phrase-là, tu voulais provoquer, mais que se serait-il passé, par exemple, pour toi, si en face de toi, on avait ri ? Parce qu'en fait, si tu m'avais dit ça, toi, par exemple, aujourd'hui, ça m'aurait fait rire.
Oui, parce que tu es dans une posture de stabilité et de légitimité relativement plus forte que celle qui était en face de moi par cet homme-là.
Vous vous rendez compte là qu'on est en train de réfléchir sur le langage et qu'on voit bien qu'on parle et du contenu et du contenant, du signifiant et du signifié, de « je veux être agressif, mais en fait, j'ai juste envie d'entrer en relation enfin, ». Vous suivez bien. Ok. On continue.
C'est compliqué. Hein.
Et là, ma tenue de caméléon va compliquer encore plus les choses, parce que on peut jouer de l'humour, non pas pour se valoriser ou faire passer le message qu'on veut faire passer, mais pour au contraire décrédibiliser celui qui est en face de nous et le décrédibiliser en nous donnant l'apparence d'une forme de vérité.
Oui, absolument.
Voilà. Et je pense là à quelque chose que je cite c'est quand Jean-Marie Le Pen parlait de Monsieur Durafour crématoire.
Ouais.
Voilà. Là, effectivement, le mot justifie le sourire Durafour crématoire, mais lorsque effectivement on voit la racine de l'intention portée par...
Il y a quelque chose d'ignoble.
Il y a quelque chose qui pousse à l'incrédibilité. Et voilà.
Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, que dans l'humour, il y a pratiquement, presque toujours, une dimension agressive ? Vous voyez, parce que l'humour, normalement, c'est fait pour faire rire, pour détendre l'atmosphère, pour petite blague, voilà, t'as la cam. Léon, t'as la cam. Est-ce que derrière, il y aurait une sorte d'agressivité cachée, camouflée ? On revient à que peuvent les mots, c'est-à-dire de temps en temps, ils sont là pour dire exactement le contraire de ce que l'on dit.
Moi, je pense que l'agressivité, là, elle ne peut être qu'une conséquence d'une perception, mais derrière... La volonté première qu'il y a derrière l'humour, c'est une forme de maîtrise autre que celle qui consiste à rester dans le rail du langage stricto sensu.
Olivier ?
Oui, peut-être. En tout cas, je ne sais pas si dans l'humour, il y a forcément de l'agressivité. Il peut y avoir, hein, dans l'ironie, le sarcasme, etc. Ça, ce sont des dimensions évidemment agressives. Mais on peut aussi se moquer de soi-même. Est-ce que c'est une agression vis-à-vis de soi-même ? On peut peut-être aller jusqu'à dire ça, pourquoi pas. Là, je crois que, dans l'humour, il y a toujours une dimension un petit peu vertigineuse. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, si on parle des mots, l'humour passe souvent par le jeu avec les mots. Caméléon, par exemple. C'est un jeu de mots. Bon, le détournement de la phrase de Descartes en « je pense donc tu suis » effectivement, est un jeu sur les mots aussi. C'est-à-dire que, tout d'un coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un double sens qui est proposé à chaque fois et un déséquilibre. Du coup, on ne sait plus exactement quoi penser et ça produit encore plus de sens. Mais un sens un peu abyssal, un peu vertigineux. Et souvent, quand on rit, c'est peut-être aussi pour reprendre sa respiration parce que, oula, on est au bord du gouffre et tout d'un coup, ça nous a donné voilà, le vertige, quoi. Quelque chose de cet ordre-là. Les mots peuvent être vertigineux parce que le mot, c'est pas la chose. Et on pourrait, comme ça, penser que... Alors, le mot n'est pas la chose, tu le disais tout à l'heure, même s'il y a des mots performatifs, effectivement, le prêtre ou l'officier d'état civil dit « vous êtes marié », bah voilà, de fait, c'est fait. Bah, puisque c'est dit, c'est fait. Mais ça reste relativement rare, et notamment quand on dit « le micro », par exemple... Bah, le mot micro, ce son-là, micro, cette succession de sons, bah, c'est pas le truc dans lequel je parle là, même si je l'appelle un micro. C'est pas exactement la même chose. Et donc, du coup, il y a toujours une espèce entre signifiant et signifié, tu disais tout à l'heure, donc signifier la chose, signifiant le son qui peut être d'ailleurs qu'on peut parfois écrire. Bah, y a une distance. Et puis, quand on décolle un petit peu de l'habitude qu'on a, je dis micro, c'est ce micro-là. Si je dis de micro tout d'un coup avec un jeu de mots en parlant de l'infiniment petit, par exemple, eh ben, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de cet objet-là ou est-ce qu'on parle de l'infiniment petit? Par exemple, hein, on ferait une émission là sur les microscopes. Donc on parlerait de micro aussi. Les microscopes, on dit micro dans les labos. Hein, un micro. Tout d'un coup, on ne saurait plus de quoi on parle. Et en fait, l'humour, c'est souvent ça. On ne sait plus de quoi on parle parce que le mot est bien là, mais on ne sait pas de quelle chose il s'agit. Et du coup, c'est un petit peu toute la réalité comme ça qui vacille.
Alors j'ai envie un petit peu de vous interroger sur quelque chose. Parce que là on a parlé un petit peu des rapports de force. On a parlé du sens qu'il y a derrière les mots. J'aurais envie de revenir un petit peu sur la dimension créatrice des mots. Gabriel, Olivier, il y a quelque chose qui est important quand même. Hein, évidemment, quand on pense à Cyrano, enfin moi j'adore ce texte, puis j'adore le film, il y a quelque chose d'une immense puissance qui est juste dans les mots, quoi, juste dans les mots. D'ailleurs, on peut lire ce texte à haute voix, en l'écoutant, il y a une espèce de jubilation. Donc, je sais pas, ça vous dit quoi,
oui,
ça?
Parce qu'en plus, c'est un texte pour resituer un petit peu, qui est vraiment uniquement comme à la radio, dit sans que le locuteur se fasse voir, puisqu'à ce moment-là, Cyrano se fait passer pour...
Exactement.
Donc c'est assez fascinant, et sans doute que d'ailleurs, les mots ont d'autant plus de pouvoir qu'ils sont débarrassés d'une image qui pourrait capter une partie de l'attention. Que, par exemple, Cyrano se montrant, lui, pense... que de toute façon, ça invaliderait son discours à cause de son très grand nez, de sa difformité, de sa laideur. Mmh. Voilà, donc là, les mots à l'état pur peuvent avoir effectivement une puissance absolument extraordinaire. Surtout que, bon, effectivement, ces passages-là de Rostand sont plus particulièrement beaux. C'est une des déclarations d'amour les plus belles de tout le théâtre français, certainement, quoi.
Oui, moi je dirais que là, on est dans le ciselage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mots pour dire et il y a des mots pour le dire. Et je mets dans le quelque chose qui tiendrait à un essentiel commun à tous, qui serait je ne trouve pas le mot, mais j'ai trouvé une autre façon de le dire. Qui serait de parler de la réalité du vivre, dans ce qu'elle a de juste, d'injuste, de beau, de laid, de... Voilà. Et ça touche à autre chose que de la description. Ça touche à de l'émotion, ça touche à de l'essentiel, qui me semble être... pointé précisément dans le discours de Cyrano. Quand on écoute la tirade de Cyrano, bien sûr qu'on a envie de sourire et de rire même de la manière dont il se traite, mais on rit de quoi? On rit de quoi? On rit de l'essentiel qui est en lui, qui est cette à la fois attachement à la vie par lui-même, par ce qu'il est effectivement, mais également de cette fragilité dans laquelle on évolue et dont on ne peut se départir et qui là comment dire ne peut pas être abordée simplement par le mot.
Alors une petite résonance, je repensais puisque tu parlais de l'essentiel et ça me faisait penser à deux choses. Dans Harry Potter, il y a un personnage dont on ne prononce pas le nom. Tout le monde voit de qui il s'agit. Et en même temps, dans la Bible, il y a aussi d'un personnage dont on ne prononce pas le nom. Et pourtant, là, il y a un contenu. Évidemment, j'oppose ces deux personnages puisqu'il y en a un qui incarne le mal, le premier, et l'autre qui incarne le bien, on va dire, pour faire... voilà. Alors, est-ce que pour reprendre ta question, Gabriel, là, Olivier, tu dirais quoi? Il y a un au-delà des mots, il y a un insondable, il y a un gouffre, il y a une transcendance, je sais pas, dans les mots.
Ça m'inspire deux choses que tu dis. C'est que déjà, le mot caché, il est parfois nécessaire. Prenons un exemple extrêmement simple. Quelqu'un demande à quelqu'un d'autre de faire quelque chose, peu importe quoi. Cette deuxième personne va répondre oui. Aurait-elle pu dire non ou pas? Parce que dans ce oui-là, c'est ça qui est important. C'est pas du tout le même oui si elle pouvait dire non que si elle ne pouvait pas dire non. Que si le oui était absolument conditionné, était absolument la seule possibilité de répondre. Mais si le non instantiel, on dit, le mot caché, je préfère appeler ça le mot caché, existe, là c'est un vrai oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui manque quand même dans les mots qu'on utilise. Et je crois que la leçon des textes bibliques ou des reprises magiques, d'une manière générale, suppose toujours qu'il manque un mot, parce que ce mot-là, s'il existait, il fermerait complètement toutes les possibilités de fluctuation de sens des autres mots. Vous voyez, le fait de dire oui, ce n'est pas le même oui selon le mot caché. Et en fait, si le langage est complet, si le langage fait une totalité absolument bouclée, en fait, il est figé. Il n'existe plus, il n'est plus vivant. Or, les mots changent. Et c'est nécessaire pour la vie, simplement. C'est nécessaire absolument que tout ça puisse évoluer. Donc, s'il n'y a pas un mot caché, s'il n'y a pas un manque quelque part, vous savez, c'est comme ces petits jeux, je ne sais plus comment ils s'appellent. On a des petits carrés qui se déplacent. Il y a juste une case vide et on doit reconstituer un dessin. S'il n'y a pas de case vide, s'il n'y a pas quelque chose qui manque, on ne peut pas bouger les petites cases, on ne peut pas reconstituer un dessin, ou alors le dessin tel qu'il est ne peut pas être défait, on ne peut pas jouer, ce n'est pas vivant. S'il y a quelque chose qui manque, on peut reconstituer le dessin, on peut le défaire, parfois on peut même faire un autre dessin. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est vital. Donc je pense que le mot manquant, c'est la vie absolue. Et d'ailleurs, il y a un autre texte intéressant de fantastique et de magie relativement contemporain, écrit par Termaire, écrit par une légende, une autrice absolument prolifique, Ursula Le Guin, enfin je pense qu'on ne prononce pas ça comme ça en anglais, Le Guin peut-être, quelque chose comme ça, qui donnait dans un des opus de Termaire une définition de la magie. Et elle dit, la magie c'est donner leur vrai nom aux choses, à partir de ce moment-là, les choses vous obéissent. Et là, c'est comme si, tout d'un coup, le mot et la chose étaient devenus totalement identiques. Et évidemment, c'est un pouvoir absolument immense, en règle générale, un pouvoir de destruction immense. C'est ce que raconte aussi Harry Potter. C'est-à-dire que ce mot manquant, le nom de Voldemort, puisqu'il s'agit de si on peut le dire, si on n'est pas dans Harry Potter, donc on n'a pas trop de risques.
Tu prends des risques quand même là.
Voilà, on n'est pas dans Harry Potter, donc ça va. On est dans un autre monde.
On va fermer les portes.
Voilà, donc si ce mot-là était prononcé, on sent bien que tout d'un coup, c'est le monde qui s'effondre. C'est le monde qui se referme. D'ailleurs, le monde proposé par Voldemort est un monde mort, comme le son même de son nom l'indique.
Je repensais d'ailleurs aussi au mot passion, par exemple. Hein. Le mot passion est devenu quelque chose qui est plutôt jouissif. Hein. Là, alors, j'ai la passion pour les fraises, le football ou le cinéma, autre chose. Mm. Alors que le mot passion, il faut se rappeler que c'est plutôt le mot latin, mais ça vient du mot pathos, qui veut dire souffrance. Et pour reprendre, on est quand même dans une radio chrétienne, ne l'oublions pas, on pourrait dire, au lieu de dire, voilà, on pourrait dire la semaine passionnante du Christ. C'est pas tout à fait la même chose que la semaine de la Passion du Christ. Pourtant, c'est exactement les mêmes mots. Gabriel, donc, là, on voit bien que les mots sont immatériels, mais que leur pouvoir est bien réel, et que peut-être l'art, la communication, le savoir n'existe que à partir d'eux. Toi, qu'est-ce que tu as envie de retenir encore là-dedans ?
Ben moi, je dirais que ce que je retiens de cet échange fort intéressant que tu nous as suggéré, Olivier, c'est que au-delà du mot, il y a des codes. Il y a des codes de lecture et de compréhension. Mm-hmm. Et que si on ne les a pas, indépendamment de la petite case qui manque pour certains mots, effectivement, qui se font bien de ne pas exister parce qu'effectivement ils permettent la recomposition, la reconstruction. Si on ne possède pas ces codes, on peut être complètement à côté du sens porté par l'intention. et c'est dramatique parce que, en fait...
Là, c'est les mots associés à un pouvoir, au fond, tu dis. Hein.
C'est des mots associés à un pouvoir, mais pas simplement à un pouvoir, à une intégration. À une intégration. Si on ne possède pas les codes d'un certain milieu... Mmh. Même si on en a la capacité, on ne rentre pas, on n'appartient pas, on n'est pas inclus dans ce milieu. Et ça, c'est un point qui dépasse le mot, sur lequel le mot, effectivement, a sa raison d'être pointé, mais qui a des conséquences énormes sur la crédibilité et sur l'intégration dans une société dont les relations en sont modifiées. Voilà.
Alors, je crois qu'il doit nous rester à peu près 5-6 minutes. Je vais me tourner sur notre grand ordinateur. Je reviens un petit peu sur mes trois questions. Les mots mettent-ils la pensée en mouvement ? Les mots reflètent-ils un rapport de force ? Là, c'est un petit peu ce que tu viens d'évoquer, Gabriel en particulier. Les mots ont-ils un pouvoir créateur propre ? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir là-dessus qui vous semble essentiel ?
Quelque chose dont on n'a pas parlé, mais ce que Gabriel vient de dire, il invite, je crois, invite à y penser, en tout cas, c'est la dimension politique aussi. Mmh. Parce que je crois que la politique, alors, là encore, un univers fait essentiellement de mots, d'ailleurs, c'est le reproche que souvent on formule à l'encontre des personnalités politiques.
Des mots, voilà.
Il ne se passe rien. Donc, des mots comme presque invalidés de leur pouvoir. C'est presque une démonstration inverse, pour le compte. Même si c'est une accusation portée qui n'est pas forcément une réalité par ailleurs.
Bien sûr.
Les personnalités politiques votent, agissent, décident de tout un tas de choses. Donc, ils ont un vrai pouvoir, mais qui n'est pas forcément celui des mots qu'ils utilisent. Or, les mots qu'ils utilisent ont aussi un pouvoir, qui est celui de convaincre, par exemple. Et une dimension politique qui me paraît très très importante, c'est que il y a à tous les niveaux les mots qu'on écrit, les mots qu'on interdit, les mots qu'on prononce, etc. À tous les moments, il y a une espèce de censure possible qui plane tout le temps, qui s'exerce comme ça tout le temps. Et je crois que c'est quand même pour finalement aller dans le sens d'une réponse tout à fait positive à ta première question. Oui, les mots ont un pouvoir extrêmement fort. La preuve, on les interdit. La preuve, même, on s'interdit de les utiliser parfois.
On parle d'opération spéciale, par exemple, et pas de guerre.
Par exemple, on ment aussi simplement. Ouais. Le fait de mentir, par exemple. Hein, parce que on ne dit pas ce qu'on pense à quelqu'un, par exemple. On censure, encore une fois. Parce que si on disait ce qu'on pense, peut-être ça le blesserait. Peut-être des choses comme ça. Donc, on a toujours un rapport comme ça, politique, je crois, aux mots. Et si on parle de politique, on parle nécessairement de pouvoir. Mmh. Et je crois qu'on peut absolument rien enlever du pouvoir des mots. aujourd'hui.
Alors, tu me demandais effectivement ce que j'en retenais. Il me vient... tu me connais, vous me connaissez. Je suis titillant sur la frange. Qu'en est-il du silence des mots ?
Et peut-être c'est bien que juste après, il y ait une forme de silence. Hein. Ça renvoie peut-être à cet espace vide, hein, cet espace en creux dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, sans doute.
C'est-à-dire que, voilà, c'est juste après la fin d'une symphonie de Mozart, c'est encore du Mozart. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui... Voilà, j'aime bien peut-être qu'on termine par la musique parce que c'est aussi tout à fait un langage. Il y a une structure, il y a une syntaxe, il y a une articulation, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a des compléments. Et puis, il y a surtout des gens qui se parlent. Hein. Voilà, même un piano, il y a les notes se répondent, dans un orchestre, les gens se parlent. Hein. Alors, il n'y a pas des mots, mais il y a d'autres structures. Allez, je vous laisse à chacun une petite minute pour conclure. Je sais, c'est extrêmement difficile, mais voilà, c'est l'enjeu. Et puis, on se dit qu'on va faire ça un petit peu à chaque fois. Alors, Olivier, alors là, il faut que tu nous sortes une parole très très forte, parce que tu sais, à la fin, les gens ne retiennent que ça. Tout le reste, ils ont oublié, ils ont trouvé que c'était un peu pénible, qu'ils n'avaient rien compris. Là, une petite parole bien forte qui est restée ici.
Je pense que les mots ont un pouvoir absolument immense qui est au moins celui de créer notre monde.
Pas mal, Gabriel.
Ben, moi, je dirais que ce que j'ai été amené à dire, ce que j'ai entendu et qui m'a beaucoup intéressé, m'interroge sur à la fois le récit dans lequel on s'inscrit pour traverser la vie et à la fois dans une conception du monde qui révèle ce qu'on dit d'une manière plus attachante, plus authentique. Voilà. Et pour un même mot, pour une phrase qui le met en valeur à travers une structure particulière, mais voilà, on ne peut pas raisonner uniquement sur le mot. Il faut raisonner sur une entière capacité à être unitaire, tant pour soi que par rapport aux autres aussi, par rapport à son environnement. Voilà.
Eh bien, nous allons arrêter là. Donc, c'était l'émission avec Gabriel Sevan, Olivier Lestis, Dominique Desmichel, intitulée « C'est quoi la question ?» Nous vous retrouvons, chers auditeurs, le mois prochain avec une autre question. Et je vous dis déjà le sujet, vous avez le droit de potasser d'ici là. Attention, c'est encore plus compliqué et il n'y est pas question d'arbre. L'ignorant peut-il être heureux ? Voilà, vous avez un mois pour rédiger votre copie et je vous dis au mois prochain. Chers amis, Olivier, merci. Gabriel, merci.
Merci à vous, bonsoir.
Et un grand merci à Simon qui est aux manettes.